France Inter,
franceinter.com.
Je dissimule, je biaise, j'adoucis, j'accommode autant qu'il m'est possible. Mais je ferai voir de quoi je suis capable. Mazarin. Mille ans d'histoire. Je dissimule, je biaise, j'adoucis, j'accommode autant qu'il m'est possible. En quelques mots, Mazarin définissait ainsi la manière dont il a mené une des carrières politiques les plus extraordinaires de l'histoire. Celle d'un Italien né en 1601, sans titre et sans fortune, et qui n'a dû son ascension qu'à son intelligence et son travail. Fonctionnaire obscur du Vatican, remarqué par Richelieu qui l'a fait venir en France et obtenu pour lui la dignité de cardinal, aussi habile en affaires qu'en politique, Mazarin était devenu à 42 ans l'homme le plus puissant de France. Parrain et principal ministre de Louis XIV, qui n'avait alors que 5 ans, il a gouverné pendant 18 ans un pays ravagé par la Fronde et par une guerre interminable contre l'Autriche et l'Espagne. Mais à sa mort en 1661, il pouvait léguer à son filleul un royaume en paix, un État consolidé et un pays plus grand et plus puissant qu'il ne l'avait jamais été.
Comment vous sentez-vous ce matin, mon parrain ?
Peractum est. C'est bien fini.
Ne me laissez pas seul. Tout ce que je sais vient de vous.
De moi et de la Fronde. Et vous avez des dispositions à gouverner que vous ne soupçonnez pas. Adieu, Louis. Je vous ai aimé comme mon roi et je vous ai aimé comme mon fils. Je vais maintenant retrouver quelqu'un avec lequel il me reste à conclure un dernier traité. Et je vais perdre.
Mon parrain, monsieur le cardinal, se meurt. Je veux que la cour prenne le deuil en noir et qu'on dise dans toutes les églises du royaume les prières des 40 heures, comme pour les rois.
Simone Berthier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions de Fallois une remarquable biographie de Mazarin, extrêmement complète. Mazarin qui, à l'époque où Louis XIV était encore trop jeune pour régner, a gouverné, donc on peut le dire, presque seul, la France pendant 18 ans. Alors, il disposait d'un tel pouvoir qu'il était alors, dites-vous, plus puissant que ne l'a jamais été aucun ministre dans l'histoire de France. Aussi puissant qu'un roi.
Ah oui, Richelieu a toujours eu des problèmes avec Louis XIII.
Le prédécesseur de Mazarin.
Mais oui, Louis XIIIe...
Avait des problèmes, donc Richelieu avait des problèmes avec Louis XIII.
Oui. Louis XIII supportait très mal l'autorité de Richelieu. Et Richelieu disait qu'il avait la plus grande peine à conquérir les 5 pieds carrés du cabinet royal. Donc, il y a eu constamment des tirages entre les deux. Tandis qu'entre Mazarin et Anne d'Autriche, la régente, il n'y a jamais l'ombre d'une dissension. Donc, Mazarin a complètement remis les rênes du pouvoir entre les mains de son ministre et il est libre de faire pratiquement ce qu'il veut.
Alors cela dit, quand même, il le fait en surmontant des épreuves considérables, la première étant tout simplement due à son origine. Richelieu, premier ministre de Louis XIII, était cardinal comme l'a été Mazarin, mais alors il y a une grande différence, c'est que contrairement à Richelieu, eh bien, et c'est ce qui fait la carrière de Mazarin tout à fait exceptionnelle, il n'était pas d'une grande famille et en plus il était italien, ce qui à l'époque d'ailleurs et pendant toute la durée de sa vie d'ailleurs lui a coûté cher car on l'a beaucoup critiquée pour ça. Alors rappelez-nous Simone Berthier, parce qu'on connaît mal ces années italiennes, on va en parler aujourd'hui. Au fond, les origines de Mazarin.
Bien, Mazarin est italien. Enfin, italien, ça ne veut rien dire à l'époque parce que l'Italie est morcelée. En réalité, il est romain. Alors, il est vrai que son père était né en Sicile, mais il s'est installé à Rome à l'âge de 14 ans et il a eu la citoyenneté romaine très vite. Et Mazarin, quoique né dans les Abruzzes, c'est-à-dire un petit village où sa mère était allée accoucher parce qu'il faisait trop chaud à Rome le 14 juillet, eh bien, il n'est pas né sujet du...
Il est né le 14 juillet. Hein.
Il est né le 14 juillet, oui, oui, ça porte bonheur. Il est né coiffé aussi. Bon, mais c'était en territoire espagnol dans le royaume de Naples, mais ça ne veut pas dire qu'il était sujet du roi d'Espagne. Il s'est toujours senti romain. Et c'est à Rome qu'il a ses racines et qu'il a été élevé.
Alors, élevé chez les jésuites au collège romain, où il se fait remarquer par son intelligence, il est extrêmement brillant, par son charme aussi, et qui lui permet d'entrer dans la diplomatie du Vatican, nommé secrétaire du nonce, c'est-à-dire en fait ambassadeur du pape à Milan. Il était alors un obscur fonctionnaire du pape, même le pape lui-même, qui était Urbain VII, je crois, ou Urbain VIII. Urbain VIII ne le connaissait pas.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est de famille très modeste. Alors, sa mère est de toute petite noblesse, toute petite, son père n'est pas noble, et il occupe des fonctions mal définies dans la maison d'une grande famille hispano-romaine, les Colonna. Et donc, c'est un domestique de haut niveau, si vous voulez, le père, qui a d'ailleurs des ennuis et qui tire le diable par la queue en permanence parce qu'il naît un enfant tous les ans et qui n'a pas les moyens d'assumer l'accroissement de sa famille. Donc, Mazarin part de très, très bas. Alors, c'est un sourdoué. Tout le monde s'en aperçoit très vite. Donc, il y a des mécènes qui le poussent. On paie ses études au collège romain. Et les jésuites espèrent bien en faire un des leurs. Ils refusent. Et finalement, ils cherchent sa voie. Mais pour un sujet de sa sainteté, le pape, il n'y a qu'une voie, naturellement, c'est le service de sa sainteté. Alors, il tâte d'abord des armées. Mais évidemment, les armées pontificales jouent le rôle de casque bleu, plus ou moins.
Puis il n'aime pas la guerre.
Non, il n'aime pas la guerre. Bon. Mais il se découvre finalement une vocation comme secrétaire d'un cardinal délégué à Milan auprès des autorités espagnoles. La Lombardie est à ce moment-là colonie espagnole.
Alors justement, c'est là que brusquement, alors que personne ne le connaît, il va se rendre célèbre en négociant dans un obscur conflit qu'on a du mal à comprendre, c'est dans le cadre de la guerre de 30 ans, entre la France d'un côté, l'Espagne et l'Autriche de l'autre, qui sont sur le point de s'affronter pour une forteresse près de Mantoue, la forteresse de Casale. Et sans entrer dans le détail des négociations que vous donnez, mais on n'a pas le temps de développer, brusquement, le voilà qui s'interpose entre les deux armées, d'une part l'armée française, d'autre part l'armée espagnole et autrichienne, et il arrive, il dit « Pace, pace, faites la paix », et tout le monde s'arrête de se battre. Qu'est-ce qui s'est passé, Simone
Berthier ? Ce n'est pas tout à fait un miracle. Et pendant des mois, il a galopé d'un chef d'armée à l'autre. Ils étaient trois, il y avait Richelieu, enfin le maréchal de Schomberg, pour la France, et puis un Espagnol et un Autrichien. Et aucun ne voulait céder. Il s'agissait de rétablir la paix dans l'Italie du Nord, qui servait depuis des années, des siècles, un siècle même de champ de bataille aux affrontements entre la France et la maison de Habsbourg. Alors, il est arrivé par miracle et en forçant un petit peu le jeu. C'est-à-dire qu'il a obtenu de chacun des chefs militaires la réponse « Oui, je suis prêt à signer une suspension d'armes si les deux autres sont d'accord ». Bon, alors, il a supposé le problème résolu. Il s'est jeté entre les troupes qui commençaient à tirer. Il a agité son chapeau, il a crié « Pace, pace !» Et il a invité les trois chefs d'armée à venir au milieu, là, au centre des armées. Et il a rappelé à chacun sa promesse. Et aucun n'a pu, évidemment, nier. Et puis, de toute façon, l'élan était cassé. Il n'est plus question de se battre. D'ailleurs, il n'était pas sûr de gagner non plus les autres. Donc, il a évidemment créé ce qu'on a appelé un miracle parce qu'il a pris des risques tout de même. Et du coup, il est devenu célèbre dans l'Europe entière.
Et auprès, d'ailleurs, sa réputation arrive même aux oreilles du Premier ministre de Louis XIII, Richelieu.
Quel âge avez-vous, signor Mazarini ?
28 ans, Emina.
Et vous prenez ce que vous faites pour plus important que vous-même, je l'ai remarqué. Et réunir les maréchaux espagnols et français et les convaincre en un quart d'heure de s'embrasser, vous m'avez volé ma bataille. À vous seul, vous avez triomphé de deux armées. Le pape va vous faire chanoine et toute l'Europe parle de vous. Il y a là de grandes promesses. J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père.
Ciel Pietoso, c'est une musique de Saint-Alexis de Landy. C'est une musique dont vous parlez parce que vous rappelez, Simone Berthière, que Mazarin adorait la musique. Il était mélomane.
Oui, il a même chanté le rôle de Saint-Ignace, le rôle titre, dans une pièce consacrée au fondateur des Jésuites.
Alors, cette amitié qui se noue progressivement avec Richelieu, c'était vraiment une intimité des deux hommes. Alors que Richelieu, c'est le cardinal tout-puissant, premier ministre de France, et lui est encore un petit chanoine italien. Il y a une amitié assez, qui a vraiment rapproché les deux hommes.
Oui, mais pas tout de suite. Au début, Richelieu se méfie de Mazarin. Pour qui travaille-t-il ? Pour le pape, pour la Savoie, enfin bref. Et il est tellement intelligent qu'il est dangereux. Donc, ça prend du temps. Et c'est simplement quand il s'aperçoit que Mazarin travaille sincèrement pour la France, que les relations entre eux s'améliorent.
Alors cela dit, contrairement à l'appel du pied que lui fait Richelieu, Mazarin ne vient pas tout de suite en France après ce fameux miracle de la forteresse de Casale. Non, il reste à Rome. Il est passionnément romain, il est très attaché à sa patrie romaine, il reste fidèle au pape Urbain VIII, et Urbain VIII qui veut le garder auprès de lui, parce que lui aussi il a vu ce qui s'est passé à Casale, et qui veut le faire travailler, mais pour travailler pour le pape, il faut être prêtre. Or, vous le rappelez, Simone Berthière, Mazarin ne veut pas être prêtre.
Et oui, alors Urbain VIII insiste beaucoup. Et pour faire carrière, et pour en particulier une carrière dans la diplomatie pontificale, il faut être de la maison, surtout quand on n'a pas de naissance au départ. Bon, Mazarin refuse, alors il biaise, ou il ne refuse pas en face, mais il obtient des délais, il traîne. Enfin, bon, pourquoi ? C'est la question que vous me posez.
Oui.
Bon, alors, ne mettons pas en cause sa foi. Mazarin a une foi très solide. J'allais dire une foi instinctive, presque la foi du charbonnier. Bon, et il croit que Dieu aidera les siens. Et il est optimiste. Bon. Donc, aucune raison d'ordre religieux, théologique n'intervient dans son refus. Aucune raison non plus concernant les mœurs. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais il ne veut pas être tenu en laisse. Il a découvert à Casale, et avant dans les mois qui ont précédé Casale, sa vocation, c'est la négociation. Il se veut diplomate et il aime agir sur les hommes et sur les événements. Alors il se voit mal attaché à une église, obligé de dire la messe tous les jours, de faire des sermons le dimanche où on ne peut pas changer le programme naturellement, et de confesser les vieilles dames. Il veut sa liberté d'action. Donc la véritable raison de son refus, c'est celle-ci.
Alors Urbain VIII fait de lui un protonotaire, ce qui lui permettait d'avoir des revenus. Puis vice-légat en Avignon. Avignon, c'était encore un état
oui,
du pape.
Oui, mais c'est un exil, hein, la vice-légature d'Avignon. Urbain VIII est très heureux du succès de Casale, mais en même temps, il a les Espagnols sur le dos qui sont furieux.
Les
Espagnols,
ils sont
à Naples. Hein. Bon, donc, il fait quelques cadeaux financiers à Mazarin, mais en revanche, il l'envoie en pénitence en Avignon pour bien montrer aux Espagnols qu'il n'était pas de mèche avec lui. Dans l'appui apporté aux Français.
Et puis finalement, il sera nommé nonce à Paris, où il retrouve Richelieu.
Je suis un simulacre de nonce qui n'a pas été ordonné prêtre. Un simulacre d'Italien, puisque me voilà plus français que romain. Je finirai par être quelque part un simulacre de diplomate ou de petit ministre dans un simulacre de petit état.
Pourquoi pas simulacre de cardinal ? Il n'est pas besoin d'être prêtre pour être prince de l'Église. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse.
Et Et Richelieu va faire de Giulio Mazarini un cardinal alors qu'il n'était même pas prêtre.
Oui, mais c'était possible. La pourpre est une dignité qui confère le droit de siéger au Sacré Collège et d'aider le pape de ses conseils. Mais elle était réservée souvent à des fils cadets de très grandes familles princières qui n'avaient pas de vocation et à qui il fallait donner un statut. Donc on pouvait être cardinal sans être prêtre.
Alors ce cardinal devient également français en 1639 par lettre patente. Pourquoi est-ce que Mazarin, très attaché à sa patrie romaine, Simone Berthier, vous l'avez rappelé, décide brusquement de se mettre au service de la France?
Non, alors il ne devient pas français, il reste entre les deux, il est toujours entre deux statuts, Mazarin. Si on n'avait pas encore inventé la double nationalité, mais il s'est toujours senti à la fois français et romain, et l'un n'empêchait pas l'autre. Alors, pourquoi se met-il au service de la France? Là, il faut revenir un petit peu sur la situation politique. Les Habsbourg, les descendants de Charles Quint, tenaient à la fois Madrid et Vienne, et avec évidemment des quantités de possessions annexes. Et donc, ils visaient à la monarchie universelle. Et la France était enserrée dans des tenailles qui menaçaient de l'étouffer. L'idée de Richelieu, c'était donc de desserrer ces tenailles. Et d'autre part, en Italie, Mazarin avait fait la même constatation. Les Espagnols grignotaient petit à petit toute l'Italie. Ils possédaient déjà tout le sud, ils avaient le Milanais, ils voulaient aussi l'Italie du nord. Donc c'est d'abord un patriote italien que Mazarin a voulu contrer les ambitions espagnoles. Et là, le pape était d'accord.
Et
il a aidé la France, en somme, parce que leur visée politique coïncidait.
Alors, il arrive en France auprès de Richelieu qui lui confie plusieurs missions dans un pays quand même qui est en crise. D'abord, il y a cette guerre justement entre la France d'une part, l'Espagne et l'Autriche de l'autre. Puis à l'intérieur même de la France, il y a un pouvoir, celui de Louis XIII et de Richelieu, très contesté par les grandes familles. Il y a le frère de Louis XIII qui complote à longueur de journée contre son frère, Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII qui fait des complots, qui rêvait d'ailleurs un moment de devenir roi lui-même, parce que Louis XIII n'a pas eu de fils avant
très longtemps,
1638.
Oui, donc Gaston se voyait déjà roi à la mort de Louis XIII, qui a été valétudinaire toute sa vie.
Et puis alors, il y a aussi d'autres grandes familles, on en reparlera, la famille des Condé notamment. Et puis alors, à la mort de Richelieu, en 1642, tous rêvent de succéder à Richelieu, pas du tout. Qui choisit Louis XIII? Il va choisir Mazarin, qu'il fait entrer au conseil, en quelque sorte, le gouvernement de l'époque, et qui demande même à Mazarin, c'est un signe de confiance extraordinaire, d'être le parrain de son fils, d'être le parrain du futur Louis XIV.
Oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Parce que Mazarin ne pensait pas rester en France. Ce que Richelieu avait prévu pour lui, c'était de représenter la France à Rome auprès du Saint-Siège. Mais la mort de Richelieu et celle de Louis XIII qui s'annonce imminente change complètement la donne. Et Louis XIII n'a personne. Louis XIII, comme vous dites, a été poursuivi pendant tout son règne par des conspirations visant Richelieu mais qui ébranlaient le royaume. Les grands ne supportaient pas d'être mis peu à peu à l'écart du pouvoir. Et le parti dévot également, les dévots ne supportaient pas que la France se soit engagée dans une guerre contre l'Espagne catholique avec l'appui d'alliés protestants. Donc Richelieu était haï au moment de sa mort. Louis XIII ne savait pas à qui confier son fils. Alors finalement, il n'avait que Mazarin. Et il charge Mazarin de conduire le petit Louis XIV, qui n'a pas encore 5 ans, jusqu'à l'âge d'homme, quand il pourra gouverner lui-même, et de maintenir le royaume en état de marche jusqu'à cette date-là. Et de continuer la politique de Richelieu, c'est-à-dire de mener sur le plan extérieur la guerre contre l'Espagne jusqu'à la victoire finale. C'est pas rien comme engagement. Hein. Terrifiant. On comprend qu'il est hésité. Ça n'était pas la coquetterie quand il dit qu'il envisage de rentrer en France. Mais il accepte parce que ça ouvre devant lui alors, des perspectives absolument extraordinaires.
Et cela quelques semaines avant que Louis XIII meure lui-même, 5 mois après la mort de Richelieu.
J'ai peur, monsieur le cardinal. Non pas de la mort qui approche, mais qu'après moi, tous se ruent sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet.
Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, sire, il sera roi.
Comment avez-vous nom à présent, mon fils?
Louis XIV, mon papa.
Pas encore, mon fils. Pas encore. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal est votre guide.
Le roi est mort!
Alors, à la mort de Louis XIII, Louis XIV donc devient roi, mais il n'a que 5 ans et c'est une régence qui se met en place. Alors, cette régence a été préparée par Louis XIII. Bon, sa femme, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, va modifier un peu ce testament, mais en gros, elle était organisée comment? Il y a d'abord la femme de Louis XIII, c'est elle qui devient régente, Simone Berthier.
Il y avait le choix entre sa femme et son frère, et il se méfiait également de l'un et de l'autre. Mais au total, il pense que sa femme est moins dangereuse que son frère, parce qu'au moins, le sentiment maternel est très vif chez elle. Donc, il compte qu'elle défendra le petit Louis XIV. Mais il a essayé de l'enfermer dans un conseil où elle n'aurait pas la majorité et où Mazarin devait avoir le pouvoir de décision. Mais en fait, c'était très peu conforme aux traditions du royaume. Et Anne d'Autriche n'a pas eu de peine à se faire accorder la régence pleine et entière.
Alors, le destin, l'avenir, la carrière de Mazarin dépend désormais entièrement, justement, de la femme de Louis XIII, c'est-à-dire de la mère de Louis XIV, qui va lui faire confiance au point de faire de lui, et il va le rester pendant 18 ans, de faire de Mazarin le principal ministre, en quelque sorte, oui. Le premier ministre.
Oui, mais le maître de la France, c'est lui qui gouverne. Alors, Anne d'Autriche avait préparé la transition. Elle ne l'a pas dit, bien sûr. Elle a joué sur l'effet de surprise. Mais dès avant la mort de Louis XIII, il est certain qu'elle était d'accord avec Mazarin pour la mise en scène qui suivra la proclamation de la régence. Alors, elle fait deux choses. Le jour même, où on lui accorde le pouvoir en entier, elle proclame Mazarin Premier ministre. Et évidemment, consternation de tous ceux qui rêvaient du poste. Et 8 jours après, Mazarin remet en route la guerre contre l'Espagne en engageant le siège de Thionville, qui est une place porte importante. Autrement dit, il donne un signal très fort, la guerre contre l'Espagne continue. C'est extraordinaire comme surprise dans le royaume. Ça veut dire qu'il va continuer la politique de Richelieu. Alors que tout le monde attendait au contraire d'Anne d'Autriche, une Espagnole, qu'elle signe vite, vite, vite la paix avec son frère et qu'on retrouve le bon vieux temps d'autrefois où on pouvait conspirer en paix à l'ombre d'une régente impuissante.
Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette régente, vous l'avez dit, Anne d'Autriche, malgré son nom qui est d'origine espagnole,
elle est espagnole. Hein, oui.
Donc c'est elle qui gouverne la France. Avec un Italien, Mazarin. Alors évidemment, c'est un tandem que ne supportent pas les grands qui convoitaient le poste de Mazarin, qui font tout pour séparer justement Anne d'Autriche de son premier ministre Mazarin.
Madame, méfiez-vous de ce cardinal, il a la robe rouge comme l'autre, le cul pourri.
Mais que croyez-vous donc ?
Je crois que vous n'êtes plus de notre parti, cet Italien a des yeux admirables. Il écarte les grands de vous, de tout. Il vous ensorcelle. Au point qu'on fait partout le mauvais discours que vous couchez ensemble.
Vous vous trompez. Le cardinal est plus français que beaucoup de princes. Oui, il m'a donné une passion. Celle de faire de mon fils un roi. Oui, il m'ensorcelle par son esprit et sa clairvoyance. Mais sans péché.
Simone Berthier, est-ce que Anne d'Autriche n'était ensorcelée que par l'esprit et la clairvoyance de Mazarin? Ça fait 350 ans qu'on se pose la
venir.
Question. Est-ce qu'ils étaient amants?
Bien entendu. Alors, disons tout de suite que l'opinion publique à l'époque en était persuadée et qu'elle ne s'est pas gênée pour le dire dans les termes les plus crus à travers des pamphlets qu'on a appelés les Mazarinades.
Ah j'en cite deux, c'est absolument terrible.
Si vous voulez.
Elles sont épouvantables, je vous préviens tout de suite. Il y a
Sire, vous n'êtes qu'un enfant, c'est une Mazarina qui s'adresse à Louis XIV, et le larron baisse votre mère. Il y en a un autre qui soupçonne même Mazarin d'être le père de Louis XIV, sans le secours de Mazarin.
Il n'était pas là.
Oui, mais enfin, c'est un pamphlet. Sans le secours de Mazarin, où seriez-vous roi très chrétien, fils aîné de l'Église, vous eût d'un cardinal, votre mère vous eût d'un cardinal. Et alors, pire de tout, peuple, n'en doutez plus, il est vrai qu'il la fout. Et que c'est par ce trou que Jules nous canarde. Alors, c'était épouvantable. Comment expliquer cette animosité, alors que vous semblez dire, vous, qu'il ne s'agissait entre Anne d'Autriche et Mazarin que d'une amitié amoureuse?
Bon, alors vous me posez deux questions à la fois. Alors commençons par l'amitié amoureuse. Alors, ils ont 40 ans tous les deux. Alors pour lui, c'est encore jeune. Pour une femme, à l'époque, c'est l'âge où on quitte la galanterie pour la dévotion. Anne d'Autriche n'a pas été gâtée sur le plan amoureux, avec son mari en particulier. Elle n'a que de mauvais souvenirs. Alors, évidemment, elle est sensible au charme de Mazarin, il est plein d'égards pour elle. Bon, mais elle n'est pas sensuelle. Enfin, c'est la duchesse de Chevreuse qui témoigne. Hein, elle dit en substance qu'Anne d'Autriche était frigide. Bon. Et d'autre part, Anne d'Autriche est extrêmement pieuse. Elle se confesse tous les samedis pour communier tous les dimanches. Alors on la voit mal pécher chaque semaine contre le sixième commandement. C'est difficile.
Lui-même, vous dites qu'il n'avait aucune espèce de liaison. On ne le connaît
pas. Mais non. Alors
qu'il était beau, il était séduisant.
Il était beau, il était très séduisant. Mais on ne lui connaît aucune espèce de liaison. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison qui fait que Mazarin, prudent, n'a pas ouvert tout grand ses bras à Anne d'Autriche. C'est que, d'abord, tout à fait entre nous, je pense qu'il n'était pas amoureux d'elle, enfin au sens plein du terme, physiquement, je ne crois pas. Le pouvoir avait pour lui beaucoup plus d'importance que la vie sentimentale.
Alors maintenant, comment expliquer cette animosité, cette violence dans ces mazarinades? J'en cite une qui explique peut-être beaucoup de choses. Il est advenu qu'un étranger nommé Mazarin s'est installé dans le souverain ministère où il n'a été élevé ni par sa naissance, ni par aucun mérite, vu que l'on sait qu'il est sicilien, alors qu'il n'était pas, de très sordide naissance, qu'il a été valet en divers endroits à Rome, où il a servi dans les plus abominables débauches de ce pays-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond qu'en France, on lui reproche, un, d'être étranger, deux, de ne pas d'être un roturier.
Bien sûr. Mais alors, les deux éléments qui jouent là à fond, c'est la xénophobie d'une part et le mépris de classe d'autre part. Et la xénophobie est particulièrement forte à l'égard des Italiens parce que il y a eu quelques précédents. Les deux reines Médicis en avaient amené quelques-uns dans leur bagage qui avaient laissé de mauvais souvenirs. Et le mépris de classe joue également. Donc, qu'est-ce qu'il fait chez nous alors qu'il y a tant de bons Français capables de gouverner à mieux que lui?
C'est l'éternel.
Voilà, exactement. Oui.
Alors, cela dit, ça vaudra à Mazarin d'être longtemps, même dans l'opinion publique, l'homme le plus détesté de France, d'autant plus que la politique qu'il mène, puisque la guerre se poursuit, c'est d'augmenter les impôts, et il va devenir extrêmement impopulaire, victime d'ailleurs d'un premier complot, le complot dit des importants, où il a failli mourir.
On a tenté de l'assassiner. Les conjurés ont été tellement maladroits qu'en fait Mazarin n'a pas couru grand risque. Mais tout de même l'intention y était, oui.
Et puis alors évidemment il y aura la fronde dont nous parlerons demain et qui a été sans doute la plus grande épreuve qu'ait eu à surmonter Mazarin. En attendant, Simone Berthier, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre, cette biographie de Mazarin, le maître du jeu. C'est le sous-titre de cette biographie qui a été publiée aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent téléfilm de Pierre Cardinal qui s'appelle Mazarin. Je crois que c'est François Perrier qui joue le rôle de Mazarin. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Claudine Lapersonne et Éric Morin. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, donc, dans 2000 ans d'histoire, vous pourrez entendre la deuxième partie de cette émission consacrée à Mazarin.